Voilà, bonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Vous êtes en direct avec votre émission du mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Alors, je vous rappelle que vous êtes en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM. Et ce matin, et très rapidement, nous allons jeter un coup d'œil sur la scène fédérale. Il est vrai aussi que nous avons été tellement, chers auditeurs, occupés par notre scène provinciale où il y avait justement des grands changements se sont enregistrés, adoptés, parvenus grâce à votre effort, grâce à l'effort collectif de la majorité des citoyens québécois. Mais malheureusement, au moment de ces préoccupations populaires, pour le moins, ici au Québec, les conservateurs à Ottawa étaient en train d'exécuter des plans sans bien sûr consulter qui que ce soit, notamment le peuple, parce qu'on n'oublie pas. C'est qu'au nom de l'ensemble de ce peuple que les actions du gouvernement fédéral s'enregistrent. Donc cette semaine, trois choses ont retenu notre attention sur la scène fédérale, trois choses qui relèvent quasiment de l'absurde, et je le répète, personne n'a pu comprendre réellement pourquoi cette décision de rompre, par exemple, le lien diplomatique avec l'Iran, rompre le dialogue avec un pays aussi important que l'Iran, le lien qu'il y avait entre le Canada et l'Iran laisse une porte ouverte, une possibilité au dialogue avec ce peuple, venir fermer brusquement cette porte sans motif réel et faire une déclaration de guerre à ce peuple-là, au nom de tous les Canadiens, il me semble un peu trop déplacé. Donc n'oubliez pas, chères auditrices, chers auditeurs, que le gouvernement avait agi en lançant cette rupture aussi brutale qu'elle soit, par la manière la plus brutale aussi qu'il peut avoir, voire même une insulte, une provocation, si vous voulez, expulser les diplomates iraniens du Canada sans aucun avis préalable, en leur donnant 5 jours pour faire leur valise, ce n'est jamais vu. Alors maintenant, pourquoi aller justement jusqu'à cette provocation, à cette déclaration de guerre irresponsable? Attention, ça ne veut pas dire que nous sommes ici en train de défendre l'Iran. Non, pas du tout. Nous sommes en train de dire que la diplomatie, l'intérêt de la paix, l'ouverture et le dialogue sont des éléments qu'il faut toujours protéger et qu'il faut justement se préoccuper, donc surtout envers un pays qui vous a toujours respecté et qui a respecté le protocole d'une entente entre nos deux pays. Écoutez maintenant l'incompréhensible de la réponse de notre gouvernement fédéral. Pourquoi vous avez, par exemple, rompu les relations diplomatiques de la manière la plus brutale qui peut exister? Écoutez la réponse. Parce que l'Iran a fourni de l'aide militaire au régime Assad en Syrie. Il y a aussi les attaques verbales à l'endroit d'Israël, violence des droits de la personne et la menace nucléaire qui préoccupe la communauté internationale. Écoutez, bref, n'importe quoi. En réalité, la réponse est connue, affichée partout, sur tous les fronts. Le Canada, le premier allié au monde à Israël, est prêt de tout faire pour plaire à ce peuple. Avec le ridicule, hein, rompre le lien diplomatique parce que l'Iran avait attaqué verbalement Israël. Si on suivra justement ce raisonnement, il faut quasiment rompre avec tous les pays du monde. Juste pour vous montrer comment certains leaders peuvent traîner l'image et la stature de leur peuple au plus bas existant. Salir la réputation d'un peuple, ils ne sont bien sûr dans l'abus de pouvoir à son plus haut niveau. Nous comprenons tous que le gouvernement Harper défend les intérêts d'Israël, mais la question derrière tout ça, jusqu'à quel point le Canada va s'aventurer dans la bêtise pour supporter la sottise du peuple israélien? Toute la question, chère auditrice, cher auditeur, est là. Vous savez aussi que les États-Unis et Israël se préparent conjointement de frapper l'Iran et le gouvernement de Stephen Harper ne veut pas surtout rater cette chance. On ne sait pas, à tort ou à raison, la question ne se pose même pas à ce stade-là. Voilà ce que se justifie, par exemple, l'achat et la hausse fulgurante des dépenses militaires, et en particulier l'achat des F-35. Chaque avion, savez-vous, chers auditeurs, elle coûte aux contribuables 462 millions de dollars. Ces avions de chasse ne sont pas des armes pacifiques, hein, ou plutôt, si vous voulez, ils ne sont pas là pour protéger. Elles partent d'une machine meurtrière et l'on prévoit l'utilisation contre l'Iran, justement. Donc après tant de dispenses Ça veut dire que toutes les dépenses, si vous voulez, il reste de trouver une réponse à la question de l'équilibre budgétaire maintenant. Pour M. Alpes, c'était très facile, donc on va procéder au licenciement massif d'employés du gouvernement fédéral, des réductions draconiennes dans les dépenses, incluant les fonds de pension et bien sûr les transferts fédéraux aux provinces. La discussion sur ce sujet peut prendre des heures et des heures, mais nous souhaitons simplement vous informer que la position politique de M. Harper fait marche arrière. Si cette position fait marche arrière devant cette machine de guerre qui se prépare dans l'ombre et en silence, une machine déclenchée au fond inutilement, gratuitement même, et si seulement cette pensée destructive disparaisse de la scène politique, la question des déficits budgétaires, la santé publique si vous voulez, se règle aussitôt. Vous savez, maintenant, il y a aussi un peu de comédie dans tout ça, quand le Premier ministre israélien avait indiqué que son gouvernement ne savait pas que le Canada couperait les liens avec l'Iran et qu'il n'avait partagé d'informations, aucune information spécifique avec le gouvernement Harper, alors que le ministre John Byrd avoue avoir rencontré janvier dernier le chef du Mossad. Hein, savez-vous que le chef du Mossad, c'est, on parle de l'agence de renseignement israélien, et nous ajoutons le principal sujet de cette rencontre, c'était bien sûr l'Iran. Maintenant, deuxième discussion rapide ce matin. Vous savez aussi que, comme moi, chers auditrices, chers auditeurs, que le gouvernement fédéral a augmenté à 30% le financement des soins pour les problèmes croissants de santé mentale dans les forces armées canadiennes. Ottawa investira d'abord 11 millions de dollars supplémentaires pour l'année par année, si vous voulez, et réduire l'attente pour simplement réduire l'attente pour recevoir les soins. Autrement dit, le gouvernement canadien utilise nos militaires, soi-disant pour honorer le Canada, mais la réalité nous montre qu'après l'utilisation de ces gens-là, de ces militaires dans les forces canadiennes, après être usés jusqu'à l'os, on les ignore. Imaginez-vous qu'un soldat sur 8 déployé lors de la guerre de l'Afghanistan avait reçu un diagnostic de trouble de santé mentale à son retour à la maison, puis il devient un chiffre dans les archives. Sans vous compter, bien sûr, le nombre des pertes de soldats dans les forces canadiennes. Présentement, il y a au-delà de 5400 vétérans et le nombre ne cesse, bien sûr, d'augmenter, embarrassé par le nombre, le ministère justement de la Défense. Il va dépasser, si vous voulez, les soins de troubles mentaux de 30 millions pour augmenter à 50 millions annuellement. Il devra aussi, face à cette délicate question, il va aussi augmenter le nombre des spécialistes. On parle ici de psychiatres, psychologues, infirmiers, conseillers, j'en passe. Tous ces gens-là sont traités pour des syndromes de stress post-traumatique, troubles mentaux. Bref, nos soldats ne comprennent pas eux-mêmes comment. D'ailleurs, je me souviens bien, il y avait quelqu'un qui me disait, c'est un soldat qui est revenu de l'Afghanistan, il me disait, je ne comprends même pas pourquoi j'étais là-bas. Ils ne savaient même pas pourquoi ils sont déployés sur ces terrains de guerre. Ces gens-là, ils sont traités pour des syndromes de stress post-traumatique, comme je vous l'ai dit, de troubles mentaux et tout. Et ils ne savent pas, imaginez-vous, ils ne savent pas pourquoi, quelle est la réelle mission, ce qu'ils étaient vraiment, leur mission dans ces terrains de guerre. Maintenant, dernier point, donc tout ça c'est un petit peu, très rapidement aussi, un troisième point de sottise du gouvernement fédéral concernant sa décision de vouloir révoquer la citoyenneté de 3100 personnes qui ont, soi-disant, obtenu frauduleusement la citoyenneté canadienne. Il nous informe aussi qu'il y a 7500 autres personnes qui vont subir le même sort. Alors nous allons sûrement revenir à ce sujet dans une émission, même si j'ai beaucoup de choses à dire à ce propos et je préfère céder la parole à mes invités d'aujourd'hui. Ce matin, j'ai devant moi Madame Sylvie Gervais, son ami Mario. J'ai aussi Madame Caroline. Donc tous les trois sont venus sur ce plateau pour dénoncer l'abus de l'autorité. Ça veut dire là, on va revenir à notre registre personnel, l'abus de l'autorité, l'injustice. Alors les trois invités qui sont devant moi ici, ils sont venus pour justement témoigner de leur aventure, si vous voulez, avec l'abus de l'autorité. Ils veulent contribuer à ce projet de dénonciation publique afin que le voile sera levé sur l'inacceptable. Chère auditrice, cher auditeur, au micro avec vous ce matin, Hadj Zitouni, président du mouvement Action Justice, un organisme qui fait, soi-disant, la surveillance civile de nos institutions judiciaires afin de prévenir et dénoncer les abus de pouvoir et l'injustice dans notre société contemporaine. Restez à l'écoute, après notre thème musical, nous reviendrons bien sûr avec le reste de notre émission d'aujourd'hui.
Sur les problèmes de société, où des héros et des minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes, sont-ils coupables? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous mettre à table, à condition d'être masqué, un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. C'est une émission fantastique. Vous avez un rôle à jouer, un rôle moral, un rôle civique pour nous aider à retrouver tous ceux dont on est sans nouvelles, disparus, volatilisés. Ce soir, je vous lance un appel, vous seul pouvez nous renseigner. Dans quel bas-fond la malheureuse a-t-elle un jour pu s'égarer? À quelle manœuvre très douteuse a-t-elle fini par se livrer? Ce soir, après la roue de la fortune, la main de ma sœur est à la lune. C'est une émission fracassante sur les tréfonds de la société. Une tranche de vie saignante que vous ne pouvez pas manquer. Un homme qui a payé sa dette, 20 ans de prison mérité, reconstituera en direct le crime qu'il a perpétré. Ce qui se passait dans sa tête, combien de fric il a touché en appuyant sur la gâchette pour refroidir un député. Ce soir, après la roue de la fortune, les assassins sont à la lune. C'est une série faramineuse de grands débats télévisés, de controverses fabuleuses, de face à face sans pitié. Entre qui saigne et qui charcute, entre bourreau et torturé, entre un ripou et une pute, un délateur, un dénoncé. Entre un para et un felouse, entre un violeur et des violés, et puis, comme une apothéose, entre SS et les portés. Ce soir, après la roue de la fortune, un baf obscène est à la lune.
Voilà, donc bonjour chères auditrices, chers auditeurs, vous êtes en direct avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Je vous rappelle aussi que vous êtes en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM, et je reviens directement peut-être à une première question à mon collègue Roland Cazas qui vient de nous rejoindre. Bonjour Roland.
Bonjour.
Vous vous avez voulu ajouter
Ben moi, les événements politiques qui se passent à l'heure actuelle, je dis que c'est une fine manchure. Il y a un mois que j'étais au courant que ça se passerait comme ça.
Oui.
Et je le savais d'avance. Alors, je ne suis pas un devin, je ne lis pas dans les boules de cristal, mais c'est de la stratégie politique.
Oui.
C'est voulu pour provoquer le monde, pour provoquer. Puis ce sont des sionistes qui veulent absolument déclencher une guerre. Ils ont des armes en masse, ils ne savent pas quoi en faire, ils veulent les vendre.
Ce que c'est. Mais on parle de la position de Stephen Harper dans cette situation.
Stephen Harper, c'est une patte molle. Et puis, en fin de compte, on s'est rendu compte que non seulement il n'est pas. Il annonce toutes nos nouvelles à l'étranger avant de nous annoncer à nous.
Oui.
Et puis ensuite de ça, il prend des ententes avec Netanyahou. Puis il dit à Netanyahou, inquiète-toi pas, je vais me ranger. Je me demande même s'il n'est pas un peu de la même cote que M. Netanyahou.
Oui.
Parce que à voir la réaction, franchement, là, je dis, il est complice de M. Netanyahou. On n'a pas besoin d'un premier ministre du Canada comme ça. On pourrait s'en passer de ça. On veut la paix. C'est pas pour rien qu'ils achètent des avions de guerre. On n'achète pas des avions de guerre pour jouer.
On a bien souligné, mais est-ce que vous venez de me dire, hors les ondes, vous m'avez dit que ce sont tous des Palestiniens.
Oh oui, nous considèrent comme des Palestiniens. M. Netanyahou, c'est ça qu'ils veulent faire avec nous.
Oui.
Moi, je dis qu'il faut faire enquête sur les immigrants qui viennent d'Israël.
Oui.
Ils se vieillissent de 5 ans de façon à pouvoir avoir leur pension avant tout le monde. Ils vont voir le rabbin, ils donnent un petit titre.
Oui, mais ça, c'est pas. Mais ils sont pas
ici
pour.
Tout de façon à pouvoir nous posséder.
Mais
outre monde, il y a plus de synagogues qu'il y en a à Jérusalem.
Oui, mais Roland, ça, c'est pas. Ça,
c'est trop. C'est trop.
Oui, mais Roland, on parle pas de ça. On parle de.
Ben, je m'excuse. Comment ça s'accaparait du pays.
Oui, mais Roland, excuse-moi, là, on parle d'une question qui est de l'actualité, une question de pourquoi le Canada a rompu. C'est des liens diplomatiques avec l'Iran.
Est-ce que vous
manière brutale.
Oui, mais soi-disant qu'il y a trois prisonniers, mais comment ça se fait qu'on renvoie des émigrés qui sont soi-disant qui vivent au Liban, qui vivent ailleurs, dans d'autres pays, en France ou ailleurs, ils viennent ici, s'inscrivent, demandent leur nationalité, ils foutent le camp de leur pays, ils reviennent juste au moment de leur nationalité. Eh bien, figurez-vous que ces Iraniens qu'on prétend qu'ils sont prisonniers en Iran, ce sont des Iraniens qui ont fait ça.
Oui.
Alors, ils sont venus, ils ont pris leur nationalité canadienne, ils sont retournés dans leur pays.
Mais c'est
la route de secours, la nationalité canadienne.
Oui, mais le problème, il va se régler, là. Vous savez qu'il y a presque 11 500...
On ne fait pas une guerre pour trois prisonniers qui sont là, puis c'est des gens qui font de la politique.
Oui.
Alors, écoutez, quand on fait de la politique dans un pays qu'on connaît, où on est né, puis qu'on sait comment que ça va tourner, eh bien, on connaît les risques.
Merci, Roland, pour des précisions, d'ajouts. Je reviens directement maintenant avec mes invités. J'aimerais bien remercier Mario... qui a fait un grand sacrifice pour venir ce matin parce qu'il avait des choses à faire et il a accepté de venir sur le plateau d'aujourd'hui. Merci Mario d'être ici avec nous. Je remercie aussi Mme Sylvie Gervais d'avoir cet effort-là, surtout de venir ici, d'accepter de dénoncer l'abus de l'autorité, de dénoncer l'injustice. Et dernièrement, je repasse à Caroline. Donc, Caroline, on ne veut pas afficher son nom, donc elle a le droit de le faire. Merci Caroline d'avoir répondu à notre invitation d'aujourd'hui.
Ça me fait plaisir.
C'est un plaisir. Alors, je commence directement peut-être avec l'histoire de Mme Sylvie Gervais. Bonjour Mme Sylvie Gervais. Je vous sens un petit peu pâle. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous ne vous sentez pas en forme ou quoi?
Non, ça va. Au contraire, non.
Ça va très bien. OK. Je sais que vous avez souhaité venir sur ce plateau-là, justement, pour faire une dénonciation. Et si on revient un petit peu en arrière et on demande qu'est-ce qui s'est passé avec vous, madame, pour arriver à un stade où je sais que vous êtes quand même... vous êtes descendu à l'enfer, si j'ai bien compris.
Oui, exactement.
Ouais. Comment pouvez-vous dire aujourd'hui à ces auditeurs qui vous écoutent, qu'est-ce que vous pouvez dire?
J'étais sur Internet, j'étais sur Facebook depuis 6 ans, juste sur Facebook et MSN. Ça allait très bien, j'ai jamais eu de problème de personne. J'ai rencontré quelqu'un.
Sur le Facebook?
Exactement. Non, j'ai sorti du Facebook, j'ai reçu un email en me disant que... Il fallait que je sorte de Facebook et j'étais en danger. J'ai cru cet email-là, j'ai sorti. J'étais rentré dans Netlog. Aussitôt entré dans Netlog, 2 minutes, quelqu'un m'abordait du nom de Jean-François Lambert. J'avais jamais accepté une invitation. J'étais chez lui.
Il a insisté et à travers ce billet-là, vous avez quand même accepté d'aller le voir chez lui.
Exact.
Exactement.
Mon pseudo, c'était Chanel.
Alors, vous rendez chez lui,
C'est ça. Et lui m'a dit, bon, Chan, je te veux et je vais t'avoir. En tout cas, j'étais chez lui, exact. Oui.
Est-ce que vous l'avez dévoilé votre vrai nom, votre prénom, tout?
Oui.
OK, vous étiez sincère. Vous allez chez lui parce que, à travers le billet de, malheureusement, le billet de l'Internet,
Ils ont réussi quand même à vous convaincre quand même d'avoir des liens, de venir le voir pour le moins.
J'ai fait confiance. Exact.
Alors vous arrivez pas sur le lieu, si j'ai bien compris, et vous remarquez, la première chose que vous avez remarquée devant vous, c'était quoi?
Les bouteilles de vin qu'il avait sur la sécheuse, j'ai demandé c'est quoi ça, il m'a dit c'est une collection de bouteilles de vin, mais des bouteilles de vin très ordinaires, et notre vin maison. Mais chaque bouteille portait le prénom d'une fille avec une date, ce qui me semblait étrange. Plus un ordinateur, une vieille ordinateur, mais avec trois écrans, Facebook, Netlog, puis Internet. Ça, j'ai remarqué ça en entrant.
Vous avez remarqué aussi des... qu'est-ce que vous avez remarqué aussi? Vous avez remarqué des caméras,
Marie? J'ai remarqué la ciné-caméra sur la table.
Il y a des qui sont en face de vous?
Oui.
Alors là c'est... j'ai bien compris qu'à un moment donné, vous avez bu quelque chose chez lui. Je ne sais pas ce qui s'est arrivé.
Je me suis sentie mal.
Vous avez bu quelque chose? Est-ce que vous avez offert quelque chose?
Un verre d'eau. Je me suis sentie mal.
Et vous, après avoir consommé ce verre d'eau, vous avez un petit peu perdu l'équilibre, quoi.
Ouais.
Et vous sentez un peu mal. Après ça, vous n'avez rien senti, ça?
J'ai évidemment allé me chercher du Gravol puis de l'eau Perrier. Il me dit qu'il faut qu'il y aille à Princeville, plus loin.
Mais avant d'arriver chez lui, vous étiez en bon état. Il n'y avait pas de problème.
Ouais,
il n'y avait aucun problème de santé.
Exact.
Ça, c'est la première fois que vous arrivez, madame?
Oui.
Alors, vous avez, si j'ai bien compris, vous avez perdu conscience, quoi?
Oui, j'ai eu des gros mal de tête, toute la colonne vertébrale jusqu'au nerf sciatique. Je vomissais. J'ai perdu totalement la notion du temps. Le jour, l'heure, tout.
Mais je reviens un petit peu vers votre ami Mario. Bonjour, Mario.
Bonjour.
Là. Vous savez que quand elle s'est déplacée pour voir ce type-là qui l'a invité, vous n'avez pas eu de signe de vie de madame. Vous avez fait quoi? Vous avez attendu combien de temps pour savoir que...
Mais ça faisait au moins 24 heures qu'elle était partie, puis que...
Il n'y avait pas de nouvelles.
Pas de nouvelles. Et puis, son fils, je suis avec son fils à la maison.
Oui. Vous n'avez pas eu de nouvelles, vous avez fait quoi? Est-ce que...
À un moment donné, on a eu.
À un moment donné, vous avez eu un...
Mais là, j'étais sur le bord d'appeler quelqu'un là, pour...
Appeler la police, avertir la police,
évidemment. Oui. Puis, on a eu à travers le Facebook.
Alors, vous avez
reçu... son ami à son fils.
Oui, vous avez reçu un message comme quoi que Mme Sylvie Gervais, elle est bien, puis elle va revenir plus tard.
Oui, c'est ça?
C'est ça. Comment vous avez pu, madame, envoyer ce message-là pour rassurer votre ami?
C'est Jean-François Lambert qui l'a envoyé.
C'est ce monsieur-là qui a envoyé un message à votre fils pour ne pas s'inquiéter.
Exact.
Alors, j'ai bien compris, et peut-être Mario va nous le préciser, vous ne pouvez pas déterminer combien de temps, madame, elle était chez ce monsieur-là et avoir perdu conscience parce qu'elle n'était pas là. Elle ne savait plus le temps, la notion de temps, elle n'était pas là. C'est ça, elle était effacée.
Non, pas du tout.
Vous avez perdu conscience, après ça, vous êtes réveillée comment, madame?
Je dormais toujours, je me réveillais seulement pour boire, puis mon verre était toujours plein, puis j'ai ouvert mes yeux peut-être 30 secondes avec difficulté, je l'ai vu à l'opposé de la jambe, mais c'est tout.
C'est tout. Vous, pouvez-vous nous indiquer combien de temps ça a duré, 24 heures, 36 heures, 48 heures, combien de temps, le temps qu'elle retourne?
D'après moi, elle est partie le vendredi, dans l'après-midi, puis revue le dimanche.
My God!
Moi, je n'étais pas là, je travaillais.
Oui.
Quand je rentrais dans la maison le dimanche, je l'ai vue dans le lit,
je
lui ai demandé qu'est-ce qu'elle a, elle m'a demandé ce qu'elle avait.
Oui.
Et moi, j'ai tout de suite dit...
Mais quand vous l'avez vue dans quel état vous l'avez remarqué?
Ben, t'es vraiment magané, là.
Et tu m'as gagné?
Ben, m'as gagné certain, là.
Madame Gervais, vous dites que vous vous réveillez, vous ne savez plus si c'était le jour, la nuit, l'heure, absolument rien.
Rien.
Qu'est-ce qui est arrivé? Qui vous a conduit chez vous après?
Je me suis réveillée, là, j'avais plus de mal de cœur. Je lui ai demandé de venir me conduire à la maison.
Okay.
Tout le long, j'ai pas parlé.
Il vous a conduit chez vous?
Oui. C'est après, quand je suis retournée dans Facebook, il m'a dit j'ai des photos compromettantes, si tu m'écoutes pas, et si tu vas avec tel gars, je comprenais pas quoi. Il m'avait filmé à mon insu, mais je savais pas.
Donc, si on a bien compris, peut-être vous me corrigez, vous savez pas ce qui s'est arrivé, mais probablement, ce monsieur-là, il vous a filmé sur toute. Il vous a filmé, on sait pas, vous étiez nu de telle manière.
Il a mis ça sur toutes les sites internet.
Il a pris votre photo et puis il l'a mis ailleurs, c'est ça?
Exact.
Il a vendu, on sait pas.
Ouais.
Alors, sur ça, vous êtes bouleversé, il y a un choc, un problème. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez communiqué avec la police ou non?
Oui, j'étais voir.
Alors, la première chose, vous communiquez avec la police.
Mario, continue.
Mario, oui.
La SQ, on est allé voir comment ça s'appelle? Maxime Sévigny, à Sûreté du Québec à Montréal.
La Sûreté du Québec, pourquoi vous étiez arrivé à Montréal? Pourquoi vous étiez à la SQ? C'est pas la SPVM?
Non, c'est arrivé à sa place civile, ça.
Ah, voilà, bravo. Oui, pour préciser.
Puis, étant donné que. que la SQ est à Montréal.
Parfait. Donc, vous allez voir, Jean-Maxime
Sévigny.
Vous voyez, et puis.
Et puis là, mais.
Vous avez déposé la plainte.
Moi, je ne suis pas rentré, je l'attends du dehors. Oui. Mais elle, elle est au moins 3-4 heures avec ce détective.
3-4 heures avec le détective.
Ah oui, c'est.
J'imagine, vous avez tout expliqué.
J'avais tout écrit ma déposition d'avance.
Voilà.
Il m'a demandé si j'en voulais ma déposition. J'ai dit non. Parce que qu'est-ce que je vais dire, c'est vraiment honnête, donc je n'ai pas de besoin.
Okay.
À la fin, il me dit, tu avais raison, c'est honnête, mais qu'est-ce qui nous fait peur, c'est qu'il ne lâchera pas prise.
OK. C'était quoi la suite, madame, de ça? Est-ce qu'ils ont déposé des s'il y avait des
Il me dit, donne ton disque dur à la police, à la Sûreté du Québec, à Plessisville.
Ouais.
Ils n'en ont pas voulu.
Ils ont refusé de le prendre?
Oui.
Pourquoi, madame, ils ont refusé de le prendre?
Ils ont refusé de le prendre, sans raison. Puis, quand j'ai rappelé, bon, ils m'ont dit on était rencontré JF 3-4 heures.
JF, c'est qui, ouais. JF, madame?
Jean-François.
C'est la personne qui vous a.
Drogué.
Oui, qui vous a drogué, qui vous a invité?
Je trouvais que c'était pas mal ami.
Oui.
Il m'a dit son dossier s'en va au procureur. J'ai rappelé 3 semaines après, son superviseur m'a dit ça n'a jamais été au procureur, ça a été fermé.
Ce dossier est fermé?
Oui.
C'est un monsieur de quel âge, à peu près?
Environ 46 ans.
46
Est-ce
ans.
Est-ce que vous pensez qu'il a un parent à la SQ?
J'ai aucune idée, non.
Mais là, je ne sais pas pourquoi vous aventurez sur ce stade-là, sur ce terrain-là.
Non,
on ne sait pas. Il ne faut pas avancer. Moi, ce qui est, Roland, ce qui est important ici, c'est que madame a déposé une plainte, OK? Mm. Et ce n'est pas, un cas unique. Moi, j'ai beaucoup de plaintes qui m'arrivent où des gens déposent des plaintes à la SQ ou à la SPVM et les policiers, ils ne prennent pas en considération les plaintes. Et c'est ça la problématique. Alors, l'exemple de madame Gervais ici fait un de ces exemples-là. Vous êtes madame, vous déposez votre plainte.
Exact.
Et il n'y a pas de suite.
Non.
Et encore plus loin que ça, ils vous informent comme quoi le dossier est fermé.
Exact.
C'est démantelé, dans le fond. On se fait mourir démantelé.
Mario, qu'est-ce que vous avez senti envers ça?
Je vous ai servi, je dis, va voir le SPVM.
Et est-ce que vous étiez allé vers le SPVM?
On est allé.
Vous étiez allé au SPVM?
Oui, je suis allé.
Vous avez rencontré qui, madame? À quel poste?
L'agent Bélanger au poste 45.
Au poste 45, l'agent Bélanger. Vous l'avez rencontré, vous l'avez raconté la même histoire?
Oui, j'ai raconté la même histoire. Il m'a demandé comment tu as fait pour endurer tout ça, puis on va t'aider, tout ça.
Mais oui?
Non.
Il n'y avait rien.
Ils ont appelé Mario pour dire faites-la renfermer, elle est folle, puis si vous la croyez, faites-vous renfermer vous aussi.
Oh my God. Pouvez-vous nous répéter qu'est-ce que vous a dit le monsieur?
Moi, c'est plus du don de la dame qui m'a appelé du poste opérationnel de l'Est.
Est-ce que c'est vous qui l'a appelé ou c'est elle qui vous a appelé?
C'est elle qui m'a appelé.
Alors, vous appelez pourquoi, monsieur Mario?
Pour me demander des questions sur Sylvie.
OK. Pour Mme Gervais.
Oui. Puis là, j'ai compté. Elle m'a dit qu'est-ce qui est arrivé au juste. Moi, j'ai dit
vous
ça.
Vous racontez la même histoire qui s'est arrivée.
Oui. Avec M. Lambert à l'autre bout de la planète. Là.
Oui, oui.
Et puis, elle me dit si vous croyez ça, monsieur, mais faites-vous renfermer vous aussi. Mm-hmm. Puis dites à Mme Gervais qu'elle ne fasse plus 9-1. Merci, bonjour.
Et elle vous a raccroché la ligne.
Oui.
Voilà.
Moi, il y a quelque chose qui m'étonne. Est-ce que ces gens-là tiennent un hôpital psychiatrique ou est-ce qu'ils sont médecins?
Mm.
Pour se prononcer comme ça, c'est un pronostic de médecin.
Mm.
Moi, je l'attaquerai en tant que pronostic de médecin, alors qu'il est policier.
C'est ce qu'elle a fait. Elle est allée en déontologie.
Oui.
Madame,
ils ont renvoyé le dossier comme quoi que eux autres, là...
J'ai été en déontologie pour...
Elle n'a rien à reprocher à la police qui a dit ça.
Alors Madame Mario, juste vous expliquer, vous informer que Madame Sylvie Gervais n'a pas arrêté là, à ce stade-là, après avoir dénoncé au niveau de la SQ, après avoir dénoncé aussi au niveau de la SPVM, était allée aussi à la déontologie policière. Hein, ça, c'était une autre question, là. Vous avez déposé votre plainte à la déontologie policière contre qui, madame? Contre les policiers qui n'ont pas fait leur travail.
J'avais appelé 911 concernant Jeff Lambert. Il y a une femme qui est venue chez nous, une femme policière avec 3 autres.
Oui.
Mais elle aussitôt rentrée, elle me disait, t'as-tu envie de te suicider? Quand t'as vu ton médecin, as-tu pris tes médicaments? Je dis, c'est pas pour ça que j'appelle. C'est contre elle que j'ai porté plainte.
Vous avez contre l'agente...
L'agente au poste 45.
45, qui est venue vous voir.
Je ne sais pas son nom, exact.
Alors, vous avez vu son attitude.
Ouais.
C'était un petit peu trop déplacé.
Vous avez,
suite à ça, vous avez déposé une plainte à la déontologie policière.
Exact.
Qu'est-ce qu'ils ont répondu, la déontologie policière?
Ils ont répondu qu'elle avait agi dans le bon moyen, de la façon d'une bonne policière.
Oui. Alors, j'ai devant moi ici la réponse de la commission de déontologie policière. C'est une réponse qui datait de 15 juin 2012. Dans le dossier 12-06-06. Alors, je pense que madame, elle a résumé exactement comme quoi il rejette sa plainte contre la policière qui a mal agi aussi à ce niveau-là.
Moi, je dirais comme le monsieur a dit tantôt,
ouais.
Qui sont eux pour dire qu'elle a besoin de traitement?
Médecin, mais il y a une chose. Donc, vous avez été drogué contre votre volonté.
Ben oui.
Vous avez été abusé, probablement, et ils ont pris peut-être même des films ou des photos. Vous ne savez pas dans quelle position, puisque vous étiez drogué. La police n'agit pas. Non. Donc, la personne en question, ça a été un manque de confiance. Il y a eu une erreur brutale. Il y a eu un abus de confiance envers vous, parce que vous étiez peut-être connaître quelqu'un, discuter avec ou boire un verre. Ça ne veut pas dire d'aller coucher avec. Mm-hmm. Ça ne veut pas dire non plus de poser nu ou de quoi que ce soit. Ouais. Ce monsieur, est-ce qu'ils ont fait une descente chez ce monsieur? Est-ce qu'ils ont été chez lui?
Non.
Le dossier fermé, Roland. Tout ce qu'on sait, c'est que le dossier est fermé à ce niveau-là.
Le dossier fermé, ils n'ont même pas pris son
ils n'ont même pas été poser une question à ce monsieur.
Puis la même personne me dit que...
Il y a 50% des policiers qu'on devrait foutre dehors qui sont incapables de mener quoi que ce soit.
C'est lui-même qui me l'a avoué et qu'elle ne savait pas. Il n'y a eu aucune enquête.
Je veux juste savoir, avant de passer avec notre témoin Caroline, qui est là aussi, qui a beaucoup de choses sur le cœur à dire aujourd'hui. Quel est le sentiment que vous avez aujourd'hui, madame? Je sais que vous m'avez dit, j'ai perdu confiance, blablabla. Et quel est le sentiment réel que vous avez aujourd'hui?
On vit tout. C'est tout. C'est des ressentiments, la colère, de la rage, la déception. En dedans, je suis comme une boule paralysée, mais tout ce que je reçois contre eux autres, je leur en veux, parce que je sais que je suis loin d'être coupable, puis que lui, il s'amuse pendant ce temps-là sur Facebook. Puis que
continue à avoir d'autres victimes.
Puis que mes photos sont encore sur Facebook, mais c'est pas moi qui est derrière mes photos, parce qu'il y a une autre personne là-dedans, il y a José Manja aussi.
Oui. Mais ce que j'ai bien compris, Mme Gervais, c'est que ce qui m'étonne aussi, quand vous êtes venu me voir au bureau, et j'ai devant moi, vous avez écrit énormément de pages. C'est comme un journal. Vous avez dit, à partir de ce jour-là, il s'est daté et tout, le 2012. Vous avez écrit énormément de pages. Pourquoi vous êtes passé à cet acte d'écriture? C'est une manière
de défouler.
Je veux faire de la prévention, parce que quand le virtuel devient réel, c'est bien vrai.
Est-ce que
d'un ordinateur, on peut se faire attaquer, même si c'est pire que le réel.
Oui.
C'est pire ce que j'ai subi, moi.
Mais vous êtes en train de dire à tout le monde, à ceux qui sont devant l'écran, de faire attention, de doubler attention, et surtout de dire aussi que, attention, peut-être que les policiers ne vont même pas vous croire aussi.
Ouais.
Est-ce que vous avez toujours l'adresse de ce monsieur?
J'ai pas l'adresse, moi. J'ai décrit à la police ce que je savais, c'est tout. Ils l'ont retrouvé, ils l'ont retracé, c'est tout.
Écoutez, chers auditeurs, sur ça, on va faire une petite pause musicale. On va revenir pour continuer avec Caroline. Elle a beaucoup de choses à nous dire aussi. Alors, restez à l'écoute. Vous êtes sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM. Thank you.
Voilà donc, chers auditrices, chers auditeurs, rebonjour. Vous êtes en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM. Et avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices de notre société contemporaine. Nous avons écouté la version de Mme Sylvie Gervais. C'est quand même c'est choquant ce qu'on a entendu. Le témoignage aussi et l'appui de son ami Mario. Maintenant, on va passer à Caroline. Caroline, elle ne veut pas, pour des raisons que je n'ai pas envie de préciser, elle ne veut pas dévoiler son nom de famille. Bonjour Caroline.
Bonjour.
Je sais aussi que vous êtes, par contre, vous êtes quand même quelqu'un qui a fait des études, vous avez quand même un bagage intellectuel.
Absolument.
Absolument. Donc,
c'est juste pour dire aussi que les gens pensent que les policiers abusent des gens parce qu'ils sont vulnérables.
Oui.
Mais dès qu'on a une petite vulnérabilité à quelque part, je pense qu'ils s'en servent et je pense que souvent, ils décrédibilisent les gens.
Exactement.
C'est assez facile quand ça leur tombe.
Ils cherchent la petite faille où ils peuvent rentrer sa main. Et
exactement, exactement. Puis je trouve ça assez spécial comme.
Je sais que vous avez beaucoup de choses à nous dire, mais on va essayer de résumer. On va aller directement à l'histoire. Vous avez un événement, vous êtes chez vous et vous sortez de chez vous, vous regardez l'autobus qui s'arrête devant vous. Il y avait une dame qui descend avec.
Bon, c'est assez simple, c'est les grands autobus accordéon là, qu'on appelle, où il y a plusieurs sorties d'autobus. Et moi, j'étais descendue de l'autobus, j'attendais un autre autobus, et là, je vois qu'il y avait une autopatrouille qui était stationnée juste devant une des descentes d'autobus, parce qu'il y a comme trois descentes. Et là, je voyais les policiers qui jasaient au coin de la rue, qui faisaient la circulation avec l'espèce de piton. Et là, je vois une dame qui essayait de descendre avec le bébé dans les bras.
Et qu'elle peut pas.
Et elle peut pas parce qu'il y a l'espèce d'auto-patrouille. C'est-à-dire qu'elle a descendu, mais elle avait presque pas d'espace.
Alors vous allez intervenir, vous allez dire aux policiers.
Alors moi, je vois ça, puis c'était le lendemain d'une histoire qu'il y avait eu sur la rue Saint-Laurent, une dame qui avait été poussée sur un parcomètre.
Oui, tout à fait, été blessée.
Puis
oui.
Le matin, il y avait un animateur qui disait, c'est pas de la brutalité policière, mais la dame était très gentille, tout ça, ils l'ont pris. En tout cas, alors là, moi, j'étais un petit peu...
Ce que vous avez fait, maintenant, je veux juste aussi souligner que vous avez fait ce que tout le monde devra faire. Vous avez vu quelque chose qui ne fonctionne pas, et vous êtes allé directement voir ces policiers-là pour leur dire vous ne devrez pas agir de cette manière-là, vous devrez bouger pour que la madame passe.
Exactement. Alors moi, je me suis approchée d'eux, puis bon, c'est sûr que j'étais un petit peu pompée, comme on dit entre guillemets, ce matin-là. Alors là, j'arrive, puis je dis, je vais vous dire, moi, pourquoi les gens ne vous aiment pas à Montréal, parce que c'était le lendemain de cet événement-là qui avait poussé la dame. Alors là, ils me regardent. Puis il dit à sa collègue, parce qu'il y avait une jeune collègue qui était avec lui, ils jasaient tous les deux, là, je sais pas, de leur fin de semaine ou quoi. Puis là, il me dit, il me regarde, puis il regarde sa collègue, puis il dit, « Hey, y en a-tu du monde mal baisé? »
My God, ouais.
Puis là, il me regarde des pieds à la tête.
Ça, c'est le policier.
Oui, puis là, il me dit, « En tout cas, moi, là, je te toucherais même pas.
»
Puis là, après ça, il dit, « Ah, ça fait mal, hein, ça fait mal. » Puis après ça, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, gars, j'ai-tu l'air heureux, moi? Il dit, garde-moi la face. Il dit, garde, moi, j'ai de l'air heureux. Il dit, toi, il dit, il me semble que t'as de l'air fatigué, t'es très tiré, puis tout ça.
Vous
parlez comme un homosexuel, quoi. Excusez-moi.
Puis là,
vous étiez choquée, j'imagine? Vous attendiez pas la réponse?
J'en revenais pas, tu sais. Puis là, je me disais, ouais, on va voir qu'est-ce que tu vas avoir l'air, toi, à 50 ans. Puis là, sa collègue a dit, ben, à 50 ans, il va être à retraite. Puis il part à rire tous les deux.
Alors, suite à ça, vous avez déposé une plainte à l'autorité policière?
Ben, suite à ça, moi, j'ai commencé par aller au poste de police parce que je travaillais pas loin d'un poste de police.
Des plaintes contre ces gens-là?
Oui. Ouais. Puis ça, c'est la première des choses.
Ouais.
C'est très difficile d'avoir leur nom, leur matricule.
Voilà. Mais c'était pas affiché devant eux?
Oui, mais c'est-à-dire, c'est parce qu'on n'y pense pas, la première chose.
Sur le lieu,
mais moi, j'ai pensé l'heure puis le coin de rue.
Exactement.
Alors ça, je l'avais pris en note. Parce que premièrement, on est sous le choc.
Caroline, qu'est-ce que vous avez fait au poste de police?
Là, je suis allée, puis là, le gars, évidemment, tous ces gens-là se protègent. Alors, quand j'ai dit, mais c'était qui était sur le coin à telle heure et telle heure?
Est-ce qu'ils vous ont donné le nom, madame?
Non.
Ils ont
là, le premier, il m'a dit, je suis pas au courant. Puis là, ils me regardaient tous, puis ils étaient tous pas au courant. Mais comme j'étais pas loin du poste de police, je suis revenue le soir. Puis là, j'ai dit, écoutez, moi, je veux savoir qui était là sur ce coin-là, à telle heure et telle heure, parce que je veux déposer une plainte. Et ça a pris 2-3 semaines avant que je puisse avoir les noms des deux personnes.
3 semaines pour avoir le nom des
deux
personnes.
Oui, puis quand j'ai eu la personne, c'était une autre personne, c'est la circulation, finalement, il y avait beaucoup...
Si je comprends bien, c'est pire que l'assurance maladie.
Oui, mais je pense que cette policière-là et que ce policier-là, mais en tout cas, cette policière-là, je suis presque sûre qu'elle travaillait à ce poste de police-là.
Bon, on a compris que ça se protège entre eux. Ça, c'est bien compris. Okay. Mais on veut juste savoir maintenant, suite à ça, vous avez déposé une plainte à la déontologie policière.
Mais la plainte en déontologie policière, ça a pris beaucoup de temps avant que je la dépose. Oui, premièrement, oui. J'ai parlé à beaucoup de gens parce qu'on se sent comme quasiment comme une personne violée. Oui. On se dit, bon, ben dans le fond, je dois être moche. Puis c'est peut-être qu'est-ce que je mérite. Oui, je dois être une malbaie. Là, on finit par...
croire.
C'est ça. Puis là, on pleure parce que ça nous attaque dans notre personnalité. Puis on peut pas... On se sent impuissant, finalement. Ouais. C'est ça. On se sent impuissant devant cette injustice.
Disons que ce policier a employé un langage qui est interdit. Alors, dans la communication, regrette.
Fait, ben oui.
Il n'a pas un cours de communication, ce gars-là.
Oh non, parce que c'est pas
il vous insulte d'une certaine façon, en vous disant que vous n'êtes pas à son goût. Oui. N'oubliez pas une chose, madame, que ce monsieur, c'est le seul au monde, peut-être, qu'il y a des milliers d'hommes à qui vous plairiez. Mais ce que je veux dire, la façon dont il avait, c'était afin de vous diminuer.
C'est ça, c'est clair.
Pour se monter lui.
Mais en plus, mais ça, c'est un aspect de l'histoire. Ouais. Parce que l'autre aspect de l'histoire, c'est qu'ils m'ont jamais demandé pourquoi je suis venue vers eux, pourquoi j'ai dit...
Oh my God.
C'est là qu'est le problème, parce que là, il n'y a pas juste un problème d'insulte, il y a un problème de sécurité. Moi, je suis déjà tombée dans un autobus, je me suis déjà blessée, je suis déjà tombée sur la rue, moi, je suis pigiste. Si j'ai la jambe dans le plâtre, j'ai pas de revenus ou j'ai peu de revenus. Donc, moi, ça me dérange au niveau de la sécurité aussi. Parce que le surlendemain, d'autres policiers ont fait exactement la même chose. Et moi, entre-temps, j'étais allée au poste de police. Alors, je veux dire, puis là, les autres policiers, je les ai avertis, je leur ai demandé...
Mais n'oublions pas une chose, la dame avait un enfant. Vous veniez en aide à une femme avec un
exactement.
Enfant.
Exactement. Et moi, le lendemain, j'ai eu le même problème.
Parce que, madame, le lendemain, il y a des policiers qui vous regardent. Hein. Ils sont dans l'auto, je pense, ils sont de patrouille de voiture, ils vous regardent. C'est là où ils ont fait un signe?
Non, ça, c'est une autre... Parce que moi, j'ai fait quelques plaintes en déontologie policière. En fait, j'en ai fait 4, qui étaient toutes... selon moi, justifié, parce que c'est une question de confiance envers le système de police. Oui. C'est une question aussi de sécurité. Oui. Mais d'abord et avant tout, c'est une question de sécurité. Mais pendant le processus, moi, je me suis fait insulter. Je me suis fait insulter par des remarques déplacées, etc. Et moi, j'ai jamais eu l'impression que j'ai eu justice avec la déontologie policière. Alors, ce qui fait que là, on se sent impuissant. Évidemment, on voit tout leur tort, parce que là, on se dit, ben, gars, là encore, regarde, là, ils nous protègent pas. Ah, ben, gars, là encore, il insulte. Ah, ben, fait que là, on voit tout le côté négatif, on devient craintif. Là, on se sent plus en sécurité parce qu'on se dit, bon, on sait pas si ces gens-là se parlent.
Mais madame...
Caroline,
je veux juste revenir sur une chose. Je sais qu'un autre événement aussi qui s'est produit aussi, malheureusement, où vous étiez dans le plâtre, c'est ça? Vous avez eu le plâtre dans la jambe?
C'est ça. Je suis tombée sur la rue. Oui. Puis en attendant l'ambulance, ben il y a un policier qui est passé très lentement, qui est même pas descendu pour venir prendre un... voir comment le trottoir était, voir qu'il y avait une pancarte sur l'arrêt d'autobus, qu'il n'y avait pas d'affaires.
Mais vous regardez pareil, vous regardez à votre direction.
Oui, puis il passe lentement. Puis moi, j'attends l'ambulance. Je suis quand même avec quelqu'un qui attend l'ambulance avec moi, mais quand même, il aurait pu...
Non,
il
faisait...
Excuse-moi. Oui, alors vous, dans ce temps-là, vous avez fait un signe avec votre main comme quoi, qu'est-ce que vous voulez, ou pourquoi vous me regardez comme ça? Vous avez fait quoi? Je sais que vous avez fait un signe.
Non, ça, c'est plus tard. C'est parce qu'après, moi, j'étais frustrée. J'avais la jambe dans le plat. Puis là, j'ai vois passer. J'étais avec une amie. Alors, je fais un signe de frustration en voulant dire « Ouais, mais quand on a besoin de vous, vous
n'êtes pas là. »
Puis quand on n'a pas besoin de...
Mais il y a des
infractions. Une seconde, parce qu'il est important. On va finir juste ça, je reviens avec vous. Et ça n'arrête pas là. Là, il va revenir vers vous, là.
La policière, elle me voit, elle sort de la voiture de police. Puis là, elle me dit « Est-ce qu'il y a un problème? » Puis là, j'ai dit « Non. » Puis là, l'autre, il m'invective. Puis moi, je lui dis « Ben, va faire ta job. » Puis quand on est allé à la cour municipale, il a dit que je les avais envoyé chier. Je les ai pas envoyé chier, j'ai juste dit va faire ta job parce que moi, quand j'ai besoin de vos services, vous êtes pas là. Puis quand vous êtes là, vous m'insultez. Oui. Fait que ça fait beaucoup de...
Il y a quelque chose qu'il faut venir là. Oui. Il y a une personne en danger, il y a non-intervention de la police, une personne qui est en danger lorsqu'elle s'est cassée la jambe.
Oui.
Alors, est-ce que la police connaît les lois?
pour commencer. Moi, je propose une chose. Foutons 50% des policiers dehors, prenons une compagnie de sécurité et engageons des gens sur la sécurité. On aura des pensions moins à payer, on va enrichir nos caisses. Oui. Je vous dis une chose, ces gens-là ne sont pas capables de faire leur job. Exactement comme madame, la dernière fois, l'Hydro-Québec coupe l'électricité, plus de télévision, plus rien dans la maison. Je sors dans la rue pour voir si c'est un accident, un incendie ou autre. Et je suis en train de parler avec un monsieur assis sur un banc d'autobus. Oui. Et une voiture de police arrive, fait un demi-tour sur la rue, oui. coupe une ligne jaune sans allumer ses lumières ni oui. rien. Elle vient me dit, il y a un problème. Je la regarde et je dis, oui, l'idiot nous a coupé, au lieu de dire l'hydro. J'ai oui. voulu me foutre de sa gueule.
Oui.
Parce que c'est une connasse.
Oui.
Je permets de dire qu'une policière connasse, deux policières dans la voiture,
ouais, y a pas
j'ai juste... rien contre les femmes. J'ai ouais. un grand respect. Mais ouais. ça, c'est des connasses qui se prennent pour d'autres.
Oui, mais ça, on a compris. Roland, je reviens avec Mme Caroline parce que c'est très important.
Mais pour revenir à l'histoire, là, ouais. de toutes ces histoires-là, c'est qu'aucune des plaintes est assez importante.
Non, non, vous avez aussi, je me souviens, okay. vous êtes aussi choqué aussi parce qu'à un moment donné, vous, y a des gens qui ne vous laissent pas dormir le soir. Après 11h, il y a des bruits et tout. Alors, vous appelez la police pour dire, écoutez, il y a des bruits et tout, les gens ils m'empêchent de dormir et tout. Et ça a duré un an pour le problème qui se règle.
Un an et demi.
Un an et demi?
Ouais.
Ouais. Ah ouais. Et c'est des gens, c'est quoi? C'est des gens qui...
Ben, premièrement, je me suis dit, je vais appeler la lieutenant qui est une femme, étant donné que le dossier avançait pas.
Ouais.
Puis elle m'a dit, ben, déménager.
Elle vous a demandé de déménager.
Ouais,
et pourtant, ces gens-là, ils font le bruit après 11 heures.
Ouais.
Ils vous empêchent de dormir après 11 heures, alors ouais. que vous travaillez le matin. Et c'est quand vous appelez la police, ils vous demandent de déménager.
Déménager.
Voilà, ah, ça c'est bien. Ouais,
moi,
c'est
bien. Ça m'est arrivé. Moi, le gars, il criait. Ouais. Moi, je suis sorti, mais je suis respecté dans mon quartier.
Ouais.
Et puis, c'était des messieurs de couleur.
Mais attends une seconde, attends une seconde, Roland.
Vous avez raison. Mais lorsque je leur ai dit, vous pouvez la fermer un peu, vous n'êtes pas dans le désert ici.
Ouais.
Hein, j'ai dit, il y a du monde qui vit à côté de chez vous. Figurez-vous que. Figurez-vous qu'ils ont
Attends.
Fait une chose.
Oui, on va faire une pause musicale.
Je vais tenter de personnifier un homme. Venez, suivez le cheminement de mon imagination et vous le verrez. Son nom, Alonso Quijano. Il conçoit le plus étrange projet jamais imaginé. Devenir chevalier errant et jaillir dans le monde pour en redresser tous les torts. Ne plus être le simple Alonso Quijano, mais un preux chevalier connu sous le nom de Don Quixote de la Mancha. Écoute-moi, pauvre monde, insupportable monde, c'en est trop, tu es tombé trop bas. Tu es trop gris, tu es trop laid, abominable monde. Écoute-moi.
Hey. Excusez-nous juste parce qu'il y avait un petit problème technique. On va revenir à la discussion, madame. Excusez-moi, madame. Ça, je pense qu'on reproche à.
Monsieur Cazet, que... deux femmes policières connasses.
Oui, c'est ça. Donc c'est un petit peu bizarre, là. C'est quand même, on a le droit quand même de dire ce qu'on pense aussi.
Exactement.
Hein, parce que c'est tout à fait vrai qu'il y a des connasses. Il faut pas le dire.
Ouais.
Hein. Ça veut pas dire. Et il faut être aussi clair sur ça.
Je ne suis pas censuré.
Ce n'est pas tous les policiers. On a énormément un grand respect pour les policiers qui font leur travail comme il faut.
Il y a des pères de famille policiers.
Il y a des pères de famille. Et ça n'empêche pas qu'il y a aussi dans les rangs des policiers, il y a des criminels même, il faut le dire aussi. Donc, Je reviens. Désolé, chère autrice, chère auditeur, pour la technique, là, pour un petit problème de technique. Je reviens avec Caroline. Caroline, voulez-vous... Alors, vous avez fait quand même la plainte pendant un an et demi. C'est ça ce que j'ai bien compris?
Exact.
Et un an et demi après, le problème est réglé parce que les policiers se sont rendus compte comme quoi, réellement, il y avait un problème. Il y avait même des pocheurs là-bas. Il y avait des vendeurs de drogue et tout dans ce building où vous étiez. C'est ça?
Exact. Et moi, j'avais peur et donc je mettais de la pression parce que je dormais pas, plus mon travail, tout ça.
Oui.
Puis même, à un moment donné, j'ai parlé à un policier puis il m'a dit, ben madame, est-ce que vous avez un mari? Comment voulant dire? Si j'avais
il
un mari,
protéger. Oui, pour protéger.
Il m'aurait protégé, donc oui. j'aurais pas été obligée de les appeler.
Oui, oui, oui.
Fait que ça, c'est comme... Mais ça, c'est des remarques qui sont très dures, très blessantes. Puis là, on oui. se dit, ben moi, je suis en 2012... tu sais, je veux rester chez nous, je veux avoir une sécurité, je veux, tu sais, je veux dire, on est supposé d'être dans un...
Si j'ai bien compris, Caroline, ça veut dire que les policiers, ils vous disent simplement, si vous avez un mari, ça veut dire autrement dit, cherchez-vous quelqu'un qui va vous protéger.
Exactement.
Et le SPVM, ils ne peuvent pas le faire.
Ben, c'est ça.
C'est ce que j'ai bien compris.
Ou déménager,
tout concrètement. Alors, vous avez ce qui nous préoccupe aujourd'hui aussi, c'est que vous avez fait des démarches au niveau de la déontologie policière et ça n'a pas très, très bien fonctionné, si j'ai bien compris. Ce n'est pas un cas, il y a des centaines et des centaines de cas qui sont malheureusement semblables. Vous savez aussi que de ce côté-là, la déontologie policière fait défaut, hein, il faut le dire. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui, après toutes ces plaintes que vous avez déposées au niveau de la déontologie policière, quel est le sentiment que vous avez aujourd'hui?
Mais moi, j'ai le sentiment que ces gens-là sont extrêmement protégés, qu'il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas de moyen qui fait que ça devient dissuasif. Donc, ça, d'après moi, ça continue à se répéter. Parce que moi, la plupart des gens, quand je leur parle d'un cas, ils me disent « Oui, mais ça, c'est juste un policier, c'est juste une policière. » En voulant dire « Toutes les autres sont bons. »
Ce n'est pas généralisé. C'est ça.
Mais sauf que non, c'est un, après ça, c'est un autre, après ça, c'est une autre.
50%.
Après ça, tu dis « Bon, c'est une remarque déplacée, il n'était pas de bonne humeur ce matin-là. » Mais là, ça fait un, deux, trois. Donc, on sent que ces gens-là, ils ont des privilèges.
Ouais.
On sent qu'ils ont une immunité. Mm-hmm. On sent que s'ils ne sont pas rencontrés, s'il n'y a pas des vraies sanctions, comme quand moi, il m'a dit « Ça fait mal.
Ouais. »
Oui, ça fait mal à mon ego, mais moi, j'aimerais ça que ça fasse mal à ton portefeuille ou que ça fasse mal à ta job ou que ça fasse... Tu sais, qu'il y a comme un sentiment de justice.
Oui.
Et quand t'en fais une, t'en fais deux, t'en fais trois, t'en fais quatre, puis que là, tu te dis, ben j'ai pas le sentiment de justice, la confiance ne s'est pas rétablie parce que, dans le fond, c'est ça le processus de déontologie policière. C'est de rétablir la confiance entre le public.
Et sanctionner le policier, fais attention, là. Il faut sanctionner le policier, il faut montrer au policier qu'il y a une limite.
Exactement.
Qu'il ne faut pas qu'il n'y ait pas cette limite-là.
Exactement.
Et surtout, nous sommes dans le domaine de respect, hein. C'est la moindre,
exactement.
La moindre,
et pas juste le respect, mais parce qu'au départ, c'est une question de sécurité.
Tout à fait, exactement, oui.
Puis dans le processus de moi, je veux une sécurité, là, on vient m'insulter dans ce processus-là pour que moi, je me sente diminuée puis que je me dis, bon, ben dans le fond...
Oui, madame, savez-vous pourquoi? Ils sont surprotégés, ils ont une fraternité policière, ils sont syndiqués. Moi, je dis que ce sont des soldats, normalement.
Oui.
Les policiers sont des soldats, vu qu'ils sont armés. Eh bien, figurez-vous que le jour où ils décideront de faire la grève pendant une guerre, nous aurons l'air fin. Tous, nous aurons l'air fin. Ils sont syndiqués. C'est le syndicat qui décide.
Non, mais
c'est le syndicat qui leur donne des ordres.
Roland, s'il vous plaît.
Dans les manifestations.
Roland,
ben oui.
Ce qui est important, moi, je trouve que l'effort des citoyens de venir ici, sur ce plateau-là, et faire cette dénonciation, c'est déjà maintenant, c'est sensibiliser le politique du problème. Et à partir de ça, nous envisageons justement de trouver des solutions. Et je vous rassure qu'il y a des solutions qui vont se poser sur la table. Maintenant, juste avant, parce que le temps nous persécute un petit peu, j'aimerais bien revenir à Mme Gervais, Sylvie Gervais. Vous êtes maintenant directement en contact avec des auditeurs qui vous écoutent, avec peut-être des victimes qui n'ont pas voulu sortir de l'ombre. Qu'est-ce que vous allez aller dire aujourd'hui, madame?
Je leur dis de dénoncer au plus vite parce que moi...
Décourager tout le monde, les victimes.
Oui, je suis découragée, j'ai plus rien, j'ai tout perdu, mes PC, mes amis de Facebook ne savent même pas l'histoire.
Ouais.
Puis mes photos sont sur Facebook, mais c'est eux autres qui se cachent derrière mes photos.
Ouais.
Mais c'est ma vie, elle s'est complètement démolie, salie, tout depuis 2 ans et 2 mois.
Ouais. Et vous êtes en train de dire à tout le monde que rester dans l'ombre, ce n'est pas la solution idéale.
Non, parce qu'il fait peut-être d'autres victimes actuellement.
Exactement. Monsieur Mario, vous êtes témoin, vous avez vécu quand même, vous n'avez pas vécu le même sort malheureusement, mais vous étiez témoin, vous étiez à côté de Mme Gervais, c'est ton amie. Quel est le sentiment que vous avez, vous, qui avez tenté de venir en aide à votre copine et que malheureusement, vous n'avez pas réussi, quoi?
Ben là, je ne veux pas non plus commencer à faire des affaires illégales.
Ouais.
On a essayé de se tourner vers les forces policières et tout, puis ils y font rien.
Ouais.
Qu'est-ce qu'il faut s'agir une journée, mais attendre de quoi de grave pour qu'ils agissent.
Vous sentez une déception, c'est ça?
Oui.
Ouais.
Tout à fait.
C'est ça. Madame, je reviens peut-être dernier mot pour notre invitée Caroline. Quel est le message que vous voulez envoyer aujourd'hui à
ceux
qui
le message, je l'ai déjà fait. J'ai déjà écrit une lettre au ministre de la Sécurité publique. Oui. Il y a un problème avec la déontologie policière. C'est pas pris au sérieux. Oui. Ça fait que... moi, ça a pris beaucoup de temps avant que je fasse cette plainte-là parce que on se sent attaqué personnellement. On se sent diminué. Et donc, moi, ce qui m'a convaincue de faire la plainte, c'est que quand j'ai vu le conflit étudiant, j'ai vu beaucoup d'étudiants être victimes de violences et tout ça gratuites parce que c'est pas dans les médias traditionnels qu'on l'a vu, mais voilà, plutôt dans les médias comme les médias étudiants. Puis là, on voit qu'ils cachent la brutalité policière. Ils mettent comme un paravent, ils cachent. Donc, si on peut pas le voir, si on peut pas être témoin, ben c'est difficile de aussi de le dénoncer.
Voilà. Là. Donc, on reste sur le dernier mot, je pense, qu'il faut utiliser dénoncer. On va continuer à dénoncer. Sur ça, en arrivant au terme de cette émission, donc je remercie mon collègue Roland Cazès pour ses interventions. Je remercie Mme Sylvie Gervais et M. Mario, ainsi que Mme Caroline, d'avoir eu le courage de venir sur ce plateau-là et dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine à mon nom, à moi. Je remercie aussi... Monsieur Louis Alhandi, d'être de nous avoir venir en aide pour le système de son. Alors, je vous donne un rendez-vous à la prochaine émission. Merci. Et sur ça, je vous dis au revoir.
J'ai vu des gens tendre les bras et leurs deux doigts levés. Leur majeur et leur index toujours en forme de V. J'ai donc demandé ce que ce symbole pouvait signifier. Eh bien personne ou grand personne n'a pu me l'expliquer. Serait-ce un signe de paix ou bien levé de violence? Quelqu'un sait ce qu'il avance ou ce qu'il fait?
Peace or violence.
Qu'est-ce que j'en sais moi? Qu'est-ce que j'en sais moi?
Peace or violence.
Serait-ce un signe de paix? Bien levé de violence, quelqu'un sait ce qu'il avance, ce qu'il fait, serait-ce un signe de paix, ou bien levé de violence, quelqu'un sait ce qu'il avance, ce qu'il fait. Je me suis dit que c'était la même, parce qu'il fallait me faire une idée. On m'a traité de pessimiste avec des mots à me suicider. Et j'ai insisté, et encore j'insisterai. Mais apparemment, selon les grands, c'est long à exprimer. Ça prendra le temps, qu'il faudra le temps, mais finalement je le saurai. Dans 5 ans, ou 10 ans, ou 20 ans, mais j'espère avant de crever. Qu'est-ce que j'en sais, moi?
Non-stop sur les Antilles. Une émission de variété, un plaisir à la découverte, une émission à savourer sans modération.
Musique, information, éducation, histoire, débat.
Non-stop sur les Antilles.
Mardi, 12h30, sur Radio Centre-Ville, 102,3 FM.
C'est un rendez-vous.
Ici Soundproof et
Pascal.
Entre un café et le trafic, Urban Ways, une façon de débuter le week-end.
Tous les vendredis matins de 8 à 9, où l'on parle actualité, culture, musique dans un vibe chill.
Et recevez les conseils de nos différents chroniqueurs. Alors stationnez-vous.
Fermez la porte du bureau.
Urban Ways, tous les vendredis matins, 8 à 9.
Le Camo PI fait la promotion de la main-d'œuvre immigrante comme solution gagnante au développement du plan Nord.
Le Comité d'adaptation de la main-d'œuvre pour personnes immigrantes, le CAMO-PI, est financé par la Commission des partenaires du marché du travail pour développer des stratégies visant à accroître l'intégration des personnes immigrantes en emploi. Pour obtenir plus d'informations sur nos travaux et recevoir notre bulletin d'information électronique, visitez le camo-pi.qc.ca.
Salsa, reggae, camba, zouk, lambada, bossa nova, fado. Tagamofi, Mala, Tango, Samba, Merengue, Bachata, Jazz, Chansonnette française, Soukous, Rock francophone, Funk, Blues, Techno, Drum and Bass. Toute la musique du monde sur le 52,3 FM. Radio Centre-Ville, nous mettons l'accent sur le monde Montréal.